Donc la prochaine pratique dont on va parler qui contredit le monothéisme tel qu'il est compris dans l'islam, c'est la voyance et le fait de consulter les voyants. Donc soit la pratique de la voyance ou le fait de pratiquer, de consulter, pardon, la voyance. Donc on peut appeler ça idda'a ilm al-ghayb, le fait de prétendre connaître l'invisible, ou alors al-kihana, c'est-à-dire la voyance, et ça porte aussi d'autres noms. Si c'est fait avec les étoiles et les astres, ça s'appelle tenjin. Et ça a beaucoup de sortes et beaucoup de noms différents. Donc les versets à ce sujet, premièrement à propos du fait de prétendre connaître l'invisible. Qu'est-ce que c'est que l'invisible, al-ghayb? Ce sont les choses qui sont cachées à l'être humain, telles que l'avenir, ou telles que les choses qui sont perdues, les endroits où il y a des trésors, les endroits où j'ai perdu tel ou tel objet, etc. Ça c'est ce qu'on appelle al-ghayb, l'invisible. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, dit, nul dans les cieux et la terre ne connaît l'invisible, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre verset qui dit, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُمْ, auprès d'Allah sont les clés de l'invisible, nul ne les connaît autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et le verset qui dit aussi, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, dit, c'est-à-dire ô Mohammed, dit, je ne détiens pour moi-même ni bien ni mal, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais amassé beaucoup de bien et le mal ne m'aurait pas touché. C'est-à-dire, ce verset renie le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à propos de sa propre personne, Ana sayyid waladi Adam wa la fakhr, je suis le meilleur des êtres humains, celui-là il ne connaît pas l'invisible. Donc qui après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut connaître l'invisible, alors que c'est celui à qui Allah azza wa jalla a donné le plus de bienfaits, et c'est le meilleur des êtres humains, et celui qui a été le plus comblé dans la foi et dans la science aussi. Donc si lui ne connaît pas l'invisible, personne ni avant ni après lui n'a le droit de prétendre connaître l'invisible. Et ilm al-ghayb, le fait de connaître l'invisible, ça fait partie des attributs spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui viendrait à prétendre connaître al-ghayb en disant pouvoir lire l'avenir, en disant pouvoir trouver à distance un objet que tu as perdu, etc., etc., celui-là il s'est mis à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est associé lui-même à Allah azza wa jal dans cette qualité qui est ilm al-ghayb, le fait de connaître l'invisible. Et à partir de là, c'est du shirk akbar. Celui qui prétend connaître l'invisible et lire la, comme on dit, la voyance aux gens, ça c'est du shirk akbar. Parce qu'il s'est lui-même placé en associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, partageant avec lui la connaissance du règne et de l'avenir. Et celui qui viendrait à croire cette personne et à être satisfait de ce qu'il fait, lui-même, il aurait placé avec Allah quelqu'un qui connaît aussi l'invisible. Donc lui aussi, il est mushrik. Et ça le fait sortir de l'islam. Donc à la fois celui qui le prétend, et à la fois celui qui en est satisfait et qui croit, la personne qui prétend connaître l'avenir. Parce que celui qui croit, la personne qui prétend connaître l'avenir, c'est comme s'il démentait tous ces versets qu'on vient de lire. Et il dément le fait que seul Allah Azza wa Jal connaît l'invisible. Et c'est comme s'il prétendait que voilà, il y a quelqu'un d'autre avec Allah, cette personne, un tel ou un tel, tel sorcier ou tel voyant, lui aussi il connaît l'invisible avec Allah Azza wa Jal. Ensuite les hadiths qui parlent de ça. Donc avant de parler des hadiths, comme on disait, la voyance elle a beaucoup de genres, elle a beaucoup de façons d'être faite. Ça peut être lire dans une tasse, ça peut être lire dans les traits de la main, ça peut être lire dans une boule de cristal. Maintenant la mode en 2009 en France c'est les flashs. Le médium il dit je suis un médium, j'ai des flashs, donc j'ai vu que tu allais avoir ton diplôme, j'ai vu que plus tard tu allais être heureux, comme s'il voyait un film. Ou alors ça se fait aussi, ce qui était connu chez les Arabes, c'était de tracer des traits dans le sable, et à partir de ça, ils définissaient l'avenir, ou d'autres choses encore, avec le mouvement des astres, on appelle ça Tenjim, c'est-à-dire l'astrologie, le fait de dire que selon le mouvement de tel ou tel astre, il va arriver tel bien ou tel mal. Celui qui est né alors que l'astre était en telle position, alors il lui arrivera telle et telle chose. C'est ce qu'on connaît ici par quoi ? L'horoscope. L'astrologie et l'horoscope. tout ça, ce sont des moyens qui, au final, ont pour résultat, et comme conséquence, de prédire la science de l'invisible. Et la plupart de ces moyens ne sont qu'une vitrine. Et la réalité de cette activité, c'est soit une prétention totale, ça veut dire la personne, elle prétend carrément connaître l'avenir sans céder de quoi que ce soit, et elle peut jouer sur la psychologie de la personne, ou les renseignements qu'elle a de la personne, mais le plus souvent, cette activité, elle est basée sur une coopération avec les shayatines. C'est pour ça que la voyance, c'est la sœur du sihr. Et dans certains hadiths, la voyance a été nommée sihr. Et le kalim et le sahir, souvent, ne sont qu'une seule même personne. Le voyant et le sorcier, très souvent, ne sont qu'une seule et même personne. Parce que qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun la coopération avec les shayatines. Quelle est cette coopération? C'est ce qui a été écrit dans un hadith dans Sahih al-Bukhari. C'est que les shayatines écoutent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que les anges se transmettent au ciel. Certains d'entre eux, par la sagesse d'Allah, arrivent à entendre des informations avant d'être touchés par les météorites, le shihab. Après, il transmet aux shayatines qui sont en dessous de lui, c'est-à-dire que les shayatines sont des étages et une chaîne jusqu'au ciel, et ils se transmettent des informations, celui qui est au-dessus à celui qui est en dessous, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive à l'oreille de qui? De l'être humain, qui est le voyant, et qui est donc en coopération avec les shayatines, et qui est en écoute directe des shayatines. C'est-à-dire que les shayatines lui parlent. Il est là et les shayatines lui disent, voilà, un tel, il va lui arriver ici, il s'appelle comme ci, il s'appelle comme ça, etc., etc. Donc c'est une coopération. Si ce n'est que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la vérité, l'information qu'ils ont entendue du ciel, les djinns mélangent 99 mensonges. C'est pour ça que la plupart du temps, le voyant, ce qu'il dit, tu peux trouver des réalités dans ce qu'il t'a dit sur l'avenir, mais la plupart, c'est des erreurs et du mensonge. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce que les shayatines inventent et mélangent à la vérité, l'information véritable qu'ils ont réussi à attraper du ciel. Et comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, c'est pour ça que les gens disent, n'a-t-il pas dit tel jour qu'il allait arriver telle et telle chose? Donc ils retiennent la parole de vérité et ils oublient les 99 mensonges du voyant. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe autour de nous. On voit les gens aller chez les voyants, toucher des médiums, et ils te disent, il m'avait dit que en telle année, il allait m'arriver une catastrophe. Mais toute la liste d'autres choses qu'il t'a dites et qui ne sont pas arrivées, ça tu les as oubliées. Et aussi, il y a beaucoup de psychologie dedans. Par exemple, si vous prenez l'horoscope, ça c'est des choses, c'est beaucoup de psychologie. Ils disent, les taureaux, aujourd'hui, il va leur arriver quelque chose de bien. Subhanallah. Quel être humain sur Terre, dans sa journée, il ne lui arrive pas au moins une chose de bien? Donc quand il lui arrive quelque chose de bien, il dit, ah, l'horoscope a dit vrai. Donc il y a à la fois de la psychologie, de la coopération avec les shayatines, qui fait que ça attire les gens et que les gens disent, ah, effectivement, il avait dit vrai, effectivement, on peut lui faire confiance, etc., etc. On va lire les hadiths qui concernent le sujet. Donc le premier hadith... attendez. En fait, il y a deux hadiths surtout que je vais vous lire. C'est le premier hadith qui est dans Sahih Muslim, qui dit « Man ata adrafan fa sa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. » Celui qui va voir un voyant et qui lui pose une question, qui lui demande un renseignement, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Donc l'aspect apparent dans une des versions du hadith qui est dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il dit « Et qui croit, fa saddaqahu. » Et il le croit, c'est-à-dire il lui pose la question et il le croit sur ce qu'il a dit. Celui-là, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et la version la plus authentique, c'est celle dans Sahih Muslim, il n'a pas dit « fa saddaqahu. » Il a juste dit, il va et lui pose la question. Celui-là, son jugement, c'est que sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Entre parenthèses, est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas faire la prière? Non. La récompense lui est enlevée, mais l'obligation, elle reste. Donc, au pire, il n'aura pas, s'il fait ses prières pendant ces 40 jours, il n'aura pas le péché de les avoir ratés. Mais il n'aura pas la récompense de les avoir faites. Il en sera privé à cause de son péché. Les ulama ont porté ce hadith sur celui qui va simplement voir le voyant, sans même le croire. Pourquoi? Parce que dans le hadith, on comprend que la personne reste musulmane. si la prière ne lui est pas acceptée pendant 40 jours, c'est qu'elle doit encore la faire. Si elle doit encore la faire, c'est qu'elle est musulmane. Donc le hadith nous dit que celui qui va voir un voyant, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Sous-entendu, il reste quand même musulman. Alors que l'autre hadith, qui est dans les sunnans, notamment le sunnan d'Abi Daoud, il dit la même chose, mais il dit « فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » Celui qui va voir un voyant. Et qui le croit dans ce qu'il a dit, celui-là a mécru à ce qui a été descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il a mécru au Coran et il a mécru à la sunna. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on l'a dit, celui qui va voir un voyant et qui le croit dans ses informations à propos du futur, c'est comme s'il croyait que quelqu'un partage la science de l'invisible avec Allah Azza wa Jal. Alors que c'est une spécificité exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il l'a associé à Allah Azza wa Jal dans une de ses spécificités. Et c'est pour ça qu'il sort de l'islam. فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Parce que c'est comme s'il avait démenti tous les versets qui disent que seul Allah Azza wa Jal connaît l'invisible. Et les hadiths aussi qui disent que seul Allah Azza wa Jal connaît l'invisible. De là on peut en comprendre notamment que il est interdit ne serait-ce que de lire l'horoscope dans le journal. Puisque c'est comparable à celui qui va voir un voyant sans le croire. Juste par curiosité. Quel est son jugement à celui-là? Sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Donc il n'y a pas de différence entre ça et le fait de consulter l'horoscope en disant c'est juste par curiosité, j'ai envie de lire ce qu'il y a dedans. Ça aussi c'est haram. Puisque, même si tu n'y crois pas, puisque le hadith il n'a pas précisé qu'il fallait y croire. L'autre hadith précise qu'il faut y croire, mais le jugement il est autre. C'est quoi le jugement? C'est le kufr, la mécréance. Donc ça c'est ce qui concerne la voyance. Ce qu'on a dit, ça sera suffisant, inshallah ta'ala. Maintenant, une autre pratique en contradiction avec le tawhid et qui est répandue dans les sociétés musulmanes, c'est le fait de porter des talismans, qu'on appelle en arabe tamaim, ou au singulier tamima, au pluriel tamaim. Des fois ça peut être un fil. C'est pour ça dans le kitab al-tawhid, vous trouvez man allaqa khaytan ou tamimatan. Celui qui s'accroche un fil. Ce qui est voulu par là, c'est pas seulement le fil et seulement la tamima. C'est tout ce que l'être humain peut inventer et porter en pensant que ça lui ramène du bien ou que ça repousse un mal. Donc, rentre dedans les fils, les bracelets en cuivre, et ça existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les talismans avec des écritures, rentre dedans aussi les porte-bonheurs. Rentre dedans aussi la main de Fatima, comme ils disent. Alors qu'entre parenthèses, la main de Fatima, qui est très répandue au Maghreb arabe, en Tunisie, en Algérie et au Maroc, et que les gens portent en pensant que ça va les protéger, il faut connaître l'origine de ce culte. La main de Fatima, c'est cet objet avec cinq doigts, et malheureusement des fois on représente les musulmans ou le Maghreb par cet objet, c'est un héritage Ubaydi Shi'i Batini. C'est un héritage chiite, Ubaydite, Batinite. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ça vient et ça provient de la dynastie des Ubaydiyin. C'était une dynastie qui a régné après, tout de suite après les trois premières générations de l'islam et les trois premiers siècles de l'islam, qui a régné sur l'Égypte. Quel était leur dogme et leur aqida? C'était des chiites, mais pas seulement des chiites. C'était des chiites Batiniya. Qu'est-ce que c'est le Batiniya? C'est le pire mouvement qui a existé dans l'islam. C'est ceux qui interprètent non pas les noms d'Allah et ses attributs seulement, mais toute la religion. Ils l'interprètent. C'est-à-dire la salat, pour eux, ce n'est pas la salat qui est connue qu'on vient de faire. C'est autre chose. Ça veut dire autre chose. Le jeûne, ce n'est pas jeûner pendant Ramadan comme fait le commun des musulmans. C'est garder le secret des chouyours. Et toute la religion, même les pratiques, ils les interprètent autrement. Et ils ont inventé à partir de là une nouvelle religion. Et c'est ceux qui sont connus à notre époque, les Druzes par exemple, les Ismaélites, et ils ont encore d'autres, ils ont quatre grands groupes, les Batinites. Donc les Ubaydiyoun, cette dynastie, ils étaient à la fois chiites et Batiniya. Et c'est eux qui ont inventé ce symbole, et qui l'ont répandu chez les musulmans, et aussi cette croyance de croire que ce symbole, il va protéger la personne, ou il va porter bonheur à la personne. Donc regardez jusqu'où l'ignorance elle pousse des gens, qui, si tu leur demandais, te diraient « moi je suis un sunnite malikite », et il est en train de faire non pas un rite, pas seulement une pratique, c'est-à-dire un geste, mais carrément une croyance qui provient pas des sunnites mais des chiites, et loin des malikites, l'ubaydiyoun, c'est-à-dire le batiniya, les pires mouvements qui ont pu exister dans l'islam. Ceux qui, entre parenthèses, ont carrément volé la Kaaba et qui restaient chez eux en Égypte pendant plusieurs dizaines d'années, pour ceux qui ont lu l'histoire. C'est eux qui ont inventé cette main de Fatima. Ou alors rentre dedans aussi le chapelet qu'on accroche à la voiture, en pensant que ça va porter bonheur, etc., etc. Tout ce que la personne peut porter. Ou des fois les personnes ils le font à partir de quelque chose qui a un symbole chez eux. Quelque chose qui provient de leur père, ça c'était la bague de mon père, ça c'était le mushaf de mon père, ça c'était, etc. Ça c'était la chemise de mon père, quand je la mets je me sens mieux, etc., etc. Tout des choses qui... Donc que tu vas mettre à la place d'Allah Azzawajal. Comment tu les as mis à la place d'Allah? Parce que Allah Azzawajal, c'est lui qui te ramène le bien et c'est lui qui te repousse le mal. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّهِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Si Allah te touche d'un mal, nul ne peut l'enlever sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui vient à s'accrocher à un talisman, il a deux jugements différents. Si il pense que ce talisman lui-même repousse de lui le mal ou attire vers lui le bien, quel est son jugement à ce moment-là? On a fait le même cours il y a une semaine, donc c'est facile pour ceux qui voyagent. Il sort de l'islam. C'est de shirk akbar. Parce qu'il a mis dans le monde, il a cru à un autre Rab, à un autre gérant et à un autre souverain de l'univers avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cru que quelqu'un en dehors d'Allah peut lui ramener un bien ou lui repousser une épreuve qu'Allah lui a destinée. Donc il a mis ce petit objet qui n'est pas plus grand que son pouce, il l'a mis à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que souvent, ce sont des gens qui disent Allahu Akbar au début de leur prière. Ils font la prière. Ils disent Allahu Akbar. Et cet objet plus petit que sa phalange, il le met à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si par contre, il pense que cet objet est une cause pour que Allah lui ramène du bien ou repousse de lui un mal, alors là, c'est du shirk asghar. C'est du polythéisme et de l'associationnisme mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas dévié sa croyance quant au fait que c'est bel et bien Allah qui ramène le bien et qui repousse le mal. Mais par contre, il s'est basé sur un sabab qui, dans la réalité, n'est pas un sabab. Ni shara'an, ni hissan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ni religieusement, il a été déclaré comme sabab, comme cause. Allah Azza wa Jalla ne nous a pas dit « mettez des talismans pour que je vous protège ». Donc religieusement, ça n'a pas été déclaré comme une cause. Et ni hissan, c'est-à-dire ni concrètement. Concrètement non plus, ça n'a pas été prouvé avec l'expérience que c'est une cause. Parce que les causes qu'on a le droit de prendre, dans tout ce qu'on veut, quand on veut un bien ou on veut être épargné d'un mal, on va faire des causes pour y arriver. Ces causes, il faut qu'elles aient deux conditions. Que religieusement, elles soient licites, ça c'est une chose, et des fois ça peut être carrément la religion qui nous les définit, comme les ruqya, les doigts qu'on a vu hier et les différentes pratiques qu'on peut faire dans l'exorcisme, là c'est carrément la religion qui nous a dit prenez telle et telle cause. Donc il faut que la cause elle soit licite religieusement et il faut que concrètement ce soit bel et bien une cause en rapport avec ce que tu veux. Par exemple, si j'ai mal au crâne et je vais prendre un doliprane, j'ai pas de verset du Coran ou de hadith qui me parle du doliprane, on est d'accord. Mais religieusement, est-ce que quelque chose interdit le doliprane? Non, ça n'enivre pas, c'est pas du porc, etc., etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose de licite. Ça, la première condition est remplie. Deuxième condition, est-ce que le doliprane a fait ses preuves? Est-ce que concrètement, c'est quelque chose qui soigne les maux de crâne, etc.? Oui, bien sûr, c'est connu. Par contre, j'ai un cancer ou un rhumatisme ou je ne sais quoi, et je vais me mettre une boucle d'oreille en cuivre ou un bracelet en cuivre. Est-ce que ça a fait ses preuves, scientifiquement parlant, et expérimentalement parlant, est-ce que ça a fait ses preuves? Aucune preuve. Donc pourquoi la personne le met? En fait, c'est une croyance. Vous avez compris la différence? Les médicaments, c'est quelque chose qu'on a essayé, avec l'expérience, avec la science, on a découvert que ça soigne. Donc, effectivement, ce sont des vraies causes. et il faut aussi que religieusement il soit permis. Mais le problème avec les talismans, non seulement c'est interdit religieusement, mais même s'il n'y avait pas de texte religieux, concrètement, ce n'est pas une cause ni pour te ramener un bien, ni pour t'écarter d'un mal. Ni l'expérience, ni rien du tout ne prouve que ces petits talismans repoussent de toi un mal ou t'amènent un bien. Donc ça ne remplit pas les conditions des aspects, des causes qu'on a le droit de prendre dans la religion islamique. Donc pour revenir à ce qu'on disait, celui qui pense que le talisman est une cause pour qu'Allah lui ramène un bonheur ou repousse de lui un mal, alors il a associé Allah subhanahu wa ta'ala, mais du shirk, ashar. Et c'est ce qui était connu souvent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par contre, une autre question avant qu'on lise les hadiths, c'est les talismans qui sont faits à partir du Coran. Ça, c'est une autre question, parce que dedans, il y a une divergence. Tout le reste, il n'y a pas de divergence. Par contre, il y a une divergence à propos des talismans qui sont faits à partir du Coran. C'est-à-dire, j'écris par exemple Ayatul Kursi dans un papier, et je le porte dans ma poche ou à mon cou. Sur ça, les sahaba eux-mêmes ont divergé. Donc, Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans ce qui a été rapporté de lui, Aisha et d'autres encore, et aussi parmi les tabi'is, autorisaient les talismans faits à partir du Coran. Parce qu'ils considéraient que tous les hadiths qui parlent des talismans concernent les talismans tels qu'ils étaient connus avant l'islam. C'est-à-dire les talismans qui sont des objets, soit des cordes, soit du cuivre, ou soit n'importe quoi, un fer à cheval, ou alors des écritures concernant les chayatines, etc. Ça, ce raisonnement, on le retrouve dans quelle question? Le fait de dire que ces textes concernent les talismans qui étaient avant l'islam. Dans la Ruqya, on a vu hier qu'il y avait des textes qui interdisent la Ruqya. Mais comment on les comprend? C'est la Ruqya, l'incantation telle qu'elle était connue avant l'islam. Mais après l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé une certaine sorte d'incantation qui est celle faite à partir du Coran. Donc ce raisonnement, il ressemble à ça. C'est de dire, les talismans c'est interdit, sauf si c'est des talismans qui portent la parole d'Allah, alors là c'est permis. Et certains sahaba le permettaient. Et d'autres sahaba comme Abdullah ibn Mas'ud, et d'autres encore, et parmi les tabi'in, interdisaient les talismans, même ceux faits à partir du Coran. Quelle est leur preuve et leur raisonnement? C'est l'aspect général des textes qui interdisent les talismans. C'est-à-dire les hadiths disent que les talismans sont haram. Et sans faire la différence entre eux, Coran ou pas Coran. Vous avez saisi la preuve des uns et des autres? Donc les autres disent les talismans qui sont concernés dans les hadiths, c'est les talismans autres que le Coran, avec du shirk, avec des objets. Et les autres disent les hadiths sont généraux, interdisent les talismans. Donc ça englobe aussi les talismans qui portent le Coran, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit les talismans sont interdits, sauf ceux qui portent le Coran. Et ça, c'est l'avis que la plupart des savants contemporains de Ahl Sunna wa Jama'a ont choisi, pour plusieurs raisons. Pourquoi? Premièrement, comme ils l'ont dit, parce que l'aspect des textes est général. Les textes qu'on va lire par la suite, qui interdisent les talismans, sont généraux. Ils n'ont pas fait exception du Coran. Ils disent les talismans en général. Ils n'ont pas dit sauf ceux qui sont écrits avec le Coran. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce qu'on craint que ce soit ce qu'on appelle une zari'a, c'est-à-dire un moyen qui petit à petit te mène au shirk. Comment ce moyen peut te mener au shirk? C'est qu'à force de t'habituer au talisman du Coran, peut-être un jour tu vas pencher vers d'autres talismans. Ou alors, à force de porter ce talisman du Coran, tu vas commencer à croire que c'est ce bout de papier lui-même qui te protège, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme c'est un moyen qui peut mener à la superstition et au shirk, il vaut mieux l'arrêter tout de suite. Une autre raison aussi, c'est qu'imaginons un jeune qui porte la barbe, qui est cultivé dans l'islam, et il choisit l'opinion que les talismans du Coran sont autorisés. Et alors il va porter un talisman à son cou. Quand il est invité dans une aqiqa ou dans un mariage, les gens, le commun des musulmans qui n'ont rien appris à la religion, qu'est-ce qu'ils voient? Ah ben le jeune là, qui nous parle toujours de la sunna, il porte un talisman. Ben demain, je vais aller chez le frère Mohammed, et il va me faire un talisman. Sauf que le frère Mohammed, c'est pas un talisman du Coran qu'il va lui faire. Il va lui faire un talisman avec glim glim, hein, des étoiles, des carrés, etc., etc. Pourquoi? Parce que lui, il ne sait pas que ton talisman c'est du Coran, et que autre que le Coran c'est interdit. Lui, il va croire que, en te voyant, que le talisman, ben, c'est permis. et il va tomber dans le shirk. Donc pour tout ce genre de raisons, l'avis le plus sûr et le meilleur à répandre et à croire, c'est que les talismans sont interdits de façon générale. Même les talismans faits à partir du Coran. Donc on va lire les hadiths. Je vais essayer de faire vite, Inch'Allah. Le premier hadith, je vais vous les raconter directement en français. C'est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, le hadith d'Abi Bashir al-Ansari, radiallahu anhu, qui dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager pour s'adresser aux musulmans pour leur dire de ne pas laisser au cou des chameaux une qilada faite de watar. C'est quoi le qilada? C'est une corde provenant de l'watar. L'watar, c'est la corde d'un arc. Donc en fait, il a envoyé des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prévenir les musulmans et leur dire ne laissez pas les cordes des arcs au cou des chameaux. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Et il leur a ordonné de les couper. C'est parce que c'était une pratique connue à l'époque d'accrocher les fils des arcs, les cordes des arcs avec lesquels ils avaient fait la guerre. Pour eux, comme c'était, ils avaient fait des batailles avec, ça leur portait bonheur. Ça, c'est avant l'islam, ils pensaient ça. Donc ils accrochaient ces fils, ils les accrochaient notamment au cou des chameaux, pour que ces chameaux ils soient en bonne santé et ils soient protégés, puisque les chameaux, c'est ce qu'ils avaient de plus cher. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé cette pratique et a ordonné qu'on coupe tous ces, ce qu'on pourrait appeler des talismans, c'est-à-dire toutes ces cordes. Donc encore une fois, je répète, ce qui est voulu, c'est pas juste la corde de l'arc. Quelqu'un il va dire, ouais mais moi c'est pas grave, moi c'est une corde de gazelle, c'est pas une corde d'arc. Ce qui est voulu, c'est pas ça, c'est l'aspect général de la croyance et de la pratique. À l'époque du prophète, elle se faisait avec du cuivre, avec des fils d'arc. Mais ce qui est voulu, ce n'est pas l'interdiction seulement du cuivre et des fils d'arc. C'est tout ce que la personne peut porter ou accrocher à elle-même ou à son animal ou à son véhicule ou à ses enfants ou à sa maison en pensant que ça rapporte un bonheur ou que ça repousse un mal, quelle que soit la chose. L'autre hadith, c'est le hadith de la femme, Zainab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui raconte que une fois elle était chez elle et Abdullah a vu à son cou un fil. Et il lui a dit qu'est-ce que c'est, et elle a dit c'est quelque chose dans laquelle ruqiyali fil, c'est-à-dire on m'a fait une incantation dedans. Elle portait en fait un talisman dans lequel un sorcier avait fait une incantation pour la protéger. Et alors Abdullah radiallahu anhu a arraché le fil du cou de sa femme et lui a dit antum ala abdillahi la aghniya ou anishirk. C'est-à-dire, oh la famille de Abdullah, vous n'avez pas besoin du shirk. Comment il a appelé ça? Il a appelé ça shirk, radiallahu anhu. Et après, elle lui a raconté qu'elle avait un problème à son œil. D'abord, il lui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, inna ruqa wa tama'il wa tiwalata shirk. C'est-à-dire, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les incantations, donc on ne va pas réexpliquer, on l'a vu hier, ainsi que les talismans et la tiwala sont du shirk. La tiwala, on avait dit, c'est une sorte de sorcellerie pour attirer l'homme vers sa femme ou inversement. Donc il a cité les talismans, sallallahu alayhi wa sallam, parmi le shirk. Après, elle lui a expliqué qu'elle avait un problème à son œil et qu'à chaque fois, elle allait voir un sorcier juif et qu'il faisait des pratiques et que ça allait mieux pour elle. Et alors, Abdullah lui a répondu que ça venait de shaitan. C'est lui qui lui faisait du mal à son œil avec sa main. Et quand l'autre lisait, le shaitan s'enlevait. Quel est le but du shaitan dans ça, à votre avis? Le but du shaitan, c'est pas juste de faire mal à l'œil de Zainab. C'est qu'elle tombe dans le shirk. Si c'était que le fait de lui faire mal à l'œil, il n'aurait pas enlevé sa main quand l'autre y lit. Mais quand l'autre y lit, il enlève sa main, comme ça, elle croit que... elle va croire au sorcier, elle va croire à la sorcellerie et à ses pratiques. Et c'est ce que le shaitan veut des êtres humains, qu'ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils lui obéissent en dehors d'Allah azza wa jal. Donc il lui a dit ceci, vient de shaitan, et tu aurais dû dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma rabban nas, mudhib al-ba's, ô Allah le Seigneur des hommes, toi qui fais partir le mal, ishfi anta shafi. Guéris, c'est toi le guérisseur. La shifa illa shifa'uk, il n'y a de guérison que la tienne. Shifa'an la yuradiru saqama, une guérison qui ne laisse pas de maladie. Ce hadith, il est dans les Sunan, et la version complète telle que je l'ai citée, elle est dans Sunan ibn Majah. L'autre hadith, c'est le hadith de Ruwayfi' radiallahu anhu, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Oh Ruwayfi', j'espère que tu vas vivre longtemps. » Et effectivement, ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruwayfi' a vécu très longtemps. Il lui a dit: « J'espère que tu vivras longtemps, alors informe les gens que celui qui fait un nœud à sa barre, ou qui s'accroche la corde d'un arc, ou qui se nettoie de ses besoins avec un crottin ou un os, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est innocent de lui. » Donc ce qui nous intéresse nous dans le hadith, on va laisser les autres morceaux du hadith, celui qui veut l'explication il revient à Kitab al-Tawhid. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui s'accroche la corde d'un arc, parce que c'était connu à l'époque pour porter bonheur ou pour repousser le mal, le mauvais œil, les malheurs, etc., etc. Ceux qui portaient les cordes des arcs avec lesquels ils avaient fait la guerre, ou ils les accrochaient à leur chameau. Donc comment il a qualifié ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: je suis innocent de celui qui pratique ça. Donc ça, c'est ce qui concerne les talismans. Aussi, quelqu'un il va me dire, par exemple, si je le mets pour attirer les yeux des gens dessus. Il y a des gens, ils philosophent parfois. Ils disent: moi, je sais que ça, c'est du chèque. Mais je mets quand même un pneu devant le jardin de ma maison, comme il faut au bled. Moi, je sais que le pneu, il sert à rien. Mais au moins, les gens, quand ils passent, au lieu de regarder ma maison, ils regardent le pneu. Déjà, je ne sais pas c'est quel âne qui va regarder ton pneu au lieu de regarder la maison. Si vraiment il aime Dounia, moi, c'est pas le pneu que j'ai regardé. Si je vais regarder ta maison, je ne vais pas regarder ton pneu. Deuxième chose, au minimum, le jugement de cette action, c'est At-Tashabbur bi Ahli Shirk. Le minimum du jugement de faire ça, c'est qu'il y a de la ressemblance à ceux qui font du shirk. Puisque dans l'apparence, tu as fait exactement le même acte qu'eux. Donc, et ça, c'est haram. Le fait de ressembler aux gens du shirk et du kufr dans leur pratique est interdit. Donc il en est de même pour le fait de mettre un chapelet, par exemple, à sa voiture. Sachant que les gens le font, en pensant que les 36 perles qu'il y a sur le chapelet, c'est lui qui va protéger sa voiture des accidents et du mauvais œil. Donc même si toi tu ne crois pas à ça, ne mets pas de chapelet à ta voiture. Parce que c'est une ressemblance à ceux qui le font. Et la ressemblance aux gens du kufr et du shirk est interdite dans l'islam. Donc une autre pratique qui est en contradiction avec le tawhid, et ça en vérifie, c'est des pratiques qui sont à la fois en contradiction avec le tawhid, mais aussi avec la sunna, dans le sens où ce sont à la fois des pratiques qui comportent du shirk, mais en même temps on peut les qualifier aussi de bid'a, d'innovation, puisque ce sont des actes religieux que les gens inventent et rajoutent à la religion de l'islam. Donc c'est à la fois du shirk et à la fois de l'innovation. Ce sont des bid'a' shirkiyat, des innovations en attrait avec le polythéisme et l'associationnisme. L'autre pratique, c'est al-tabarruk. Al-tabarruk, c'est-à-dire le fait de chercher la baraka dans des objets, dans un vêtement, dans une personne, dans un endroit, etc., etc. Et tout ceci fait partie des innovations. Pourquoi? La première raison, c'est parce que la religion, elle a été entièrement montrée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pratiquée par ses compagnons. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Et dans la version d'Ibn Hibban, thumma alladhina yalunahum. Il a cité quatre générations. Les meilleurs gens sont ma génération, puis celle d'après, puis celle d'après, puis celle d'après. Ça englobe les meilleurs gens dans la pratique, dans la science, dans la piété, dans le fait de ne pas rajouter à la religion ce qui n'en fait pas partie, etc., etc. Donc si le tabarruk, le fait de chercher la baraka sur les hommes pieux, ou à partir de leurs vêtements, ou de leurs poils, ou de leurs tombes, ou des endroits, était permis, alors forcément on le retrouverait chez qui? Chez les gens qui étaient plus assidus au bien que nous, qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et tous les autres compagnons du prophète, radiallahu anhu. Or, aucun texte ne montre que ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni Abu Huraira, ni Ibn Mas'ud, ni Jabir, ni personne n'a pratiqué ce genre de pratique. Sauf dans un domaine, quel est-il? il le faisait avec une chose. Laquelle ? Avec tout ce qui provient du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec ses poils, avec sa salive. Et ça, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui était avéré qu'Allah azza wa jal a mis la baraka dans le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qarram, a approuvé ceci et n'a pas interdit. Puisque ça s'est fait déjà à son époque. Vous avez tous déjà lu le hadith où Abu Sufyan ibn Harb, non c'est pas Abu Sufyan, c'est un autre parmi les koufars de Quraysh, une fois quand il a vu Al-Hudaybiyah, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est revenu à la Mecque pour parler à Quraysh, il leur a dit, je n'ai jamais vu un roi aussi respecté que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les choses qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il crache, qu'est-ce qu'il faisait les sahaba? Il prenait son crachat et il s'essuyait avec. Pourquoi? Espérant la baraka qu'il y a dans le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Maintenant, on va dire par exemple le shirk un tel, à notre époque, où depuis 1400 ans, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît quelqu'un qui est pieux, qui a de la science, etc. Est-ce que je vais prendre son crachat et je vais me le mettre sur le visage? Sachant que certaines personnes le font, et ils font avec pire que le crachat, si vous voyez ce que je veux dire. Non, on ne va pas le faire et c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un prophète, avec le reste des êtres humains. Si Allah a mis cette spécificité dans cet homme, ça ne veut pas dire qu'il le met dans d'autres, puisque cet homme, il a une spécificité, c'est laquelle? C'est que c'est Mohammed, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Sayyidu Aladi Adam, c'est le meilleur des êtres humains. Donc si c'est vrai pour lui, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour les autres gens pieux. Donc il est interdit de le pratiquer avec quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a été rapporté que dans le Sahih, que Umm Salama, radiallahu anha, elle avait un récipient en argent dans lequel elle avait un poil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un poil de barbe. Et quand quelqu'un était malade, elle prenait un autre verre, parce qu'on n'a pas le droit de boire dans un récipient en argent, elle prenait un autre verre, elle mettait de l'eau sur le poil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'eau elle passait sur le poil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette eau elle la reversait dans un verre normal, et elle le donnait à boire au malade et guérissait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est du tabarruk, mais c'est permis. Ça c'est autorisé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis, puisqu'Allah azza wa jal a bel et bien mis la baraka dans son corps. Donc quelqu'un il va me dire, subhanallah, c'est du shirk, c'est de la superstition. Non. Celui qui dit ça, c'est qu'il n'a pas encore compris tous les cours qu'on a fait au bureau et ici. Pourquoi c'est pas du shirk ni rien du tout? Parce qu'on a dit, c'est quelque chose d'avéré. Le shirk, c'est quand tu prends un sabab qui n'en est pas un. Tu t'imagines un sabab. Tu t'imagines quelque chose. Tu t'imagines que ce bout de cuivre, il va me protéger. Tu t'imagines que ce fer à cheval, il va enlever l'aïn de ma maison. Alors qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais déclaré ça, et ça n'existe pas, et ça n'est même pas vérifié par l'expérience. Donc c'est du shirk. Alors que la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses poils, c'est avéré que ça a une efficacité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a approuvé. Donc il n'y a pas de shirk. Ça, c'est comparable au reste des médicaments qu'une personne peut prendre. Si prendre un médicament, c'est pas du shirk, alors prendre la salive du prophète et ses poils de barbe, c'est pas non plus du shirk, parce qu'ils ont un effet autant ou même plus que les médicaments, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en aucun cas, c'est du shirk, ni de la superstition, ni quoi que ce soit. Pour revenir à ce qu'on disait, qu'il est interdit de le faire avec un autre homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce genre de pratique, on le retrouve beaucoup chez les confréries soufis. Donc ils vont prendre soit le crachat, soit même l'urine, ou alors qu'ils vont toucher leur shir soufi, ou le fakir, comme ils les appellent, fakir en Inde, ou dans d'autres endroits du monde. Donc il y a des confréries soufis qui arrivent, et les gens ils se précipitent pour les toucher. Des esclaves à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour toucher ces gens, pour avoir leur bénédiction, ou espérer avoir d'eux un reste comme un crachat, et des fois ça va jusqu'à l'urine, ou autre. Donc ça c'est connu et c'est très pratiqué dans le monde musulman et ça c'est d'origine soufie, c'est-à-dire ça provient des confréries soufies. Et pourquoi c'est interdit? Ces gens vont argumenter en disant, voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam il crachait, les gens ils récupéraient son crachat, ils s'essuient avec, etc. admettons, on va rentrer dans votre raisonnement, que ce serait possible pour autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était possible pour autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première personne en dehors du prophète pour qui ce serait possible, ce serait qui? Abu Bakr. C'est le meilleur des êtres humains après tous les messagers qu'Allah a envoyés sur terre. Or, ni Omar, qui essayait toujours d'être en concurrence avec Abu Bakr dans le bien, ni Uthman, ni Ali, ni personne n'ont pris les poils ou le crachat ou les vêtements d'Abu Bakr. Quand Abu Bakr est mort, la personne la plus digne pour qui on aurait pu le faire, ça aurait été Omar. Personne ne l'a fait avec Omar. Quand Omar est mort, la personne la plus digne avec qui on aurait pu le faire, ça aurait été Uthman. Personne ne l'a fait avec Uthman. Et ainsi de suite, pendant trois générations. Jusqu'à ce que viennent les influences bouddhistes, hindouistes, orientales, etc. et qui rentrent dans l'islam des pratiques pleines de superstitions et des pratiques que les gens du commun aiment. Pourquoi ? Parce que c'est concret. Les gens, ils aiment quelque chose de concret qu'ils vont essuyer. Par contre, lever les mains, faire dua et s'en remettre à Allah, ça c'est un effort spirituel que la plupart des gens préfèrent délaisser pour des choses qui sont concrètes. Porter un petit gris-gris, toucher et m'essuyer contre quelque chose, demander de donner 50 euros au chir pour qu'il me fasse une baraka, ça c'est facile, c'est quelque chose de concret. Donc pour le commun des musulmans, ça s'est répandu de cette façon. Parce que c'est quelque chose de concret, et c'est ce qu'on retrouve un peu chez Banu Israël. Quand ils ont dit à Moussa, quand ils ont vu les gens qui adoraient un veau en or, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa ? « Ija'al lana ilahan kama lahum aliha » Donne-nous un Dieu comme eux, ils ont un Dieu. Eux, ils ont un Dieu concret qu'ils voient devant eux. Nous, on veut ça. L'être humain, il penche vers ça. Il aime les choses concrètes dans sa croyance. Il veut des choses, il aime les gris-gris, il aime toucher, etc. Alors que l'islam, il le relie directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça demande du tawhid, ça demande un effort spirituel, ça demande la certitude. Et c'est un autre degré, et c'est une autre foi que la foi des ignorants qui s'accrochent à du matériel. Donc on va lire le hadith qui concerne la question, on va en lire un seul. C'est le hadith de Abu Waqid al-Layfi qui raconte que, après la bataille, l'ouverture, la conquête de la Mecque, donc il s'était converti à l'islam, et il était nouvellement converti à l'islam. Et il est parti à la bataille de Hunayn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont passés à côté d'un arbre, un jujubier, Sidra, que les mushrikoun utilisaient en accrochant leurs armes à cet arbre. Donc est-ce qu'ils accrochaient leurs armes, à votre avis, pour qu'ils sèchent ? Non, c'était pour avoir la baraka de cet arbre. Et aussi, Ya'koufoun, c'est-à-dire ils restaient à côté de cet arbre. Eux-mêmes restaient et ils y accrochaient leurs armes. Pour avoir quoi ? La force, le bien, etc. Tout ça c'est résumé en un seul mot, la baraka. La baraka, c'est le bien qui perdure dans une chose. Donc ils ont vu ça. Et cet arbre s'appelait Vatu Anwar, qui veut dire littéralement celle qui a des choses accrochées. Parce que c'était une arbre à laquelle on accrochait des choses. Ça vient de Nata Yanutu, qui veut dire accrocher quelque chose. Donc ensuite, plus tard, ils sont passés dans leur voyage à côté d'un autre jujubier, et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en montrant cet arbre, mets-nous un Vatu Anwar comme eux ils en ont un. C'est-à-dire, ô messager d'Allah, mets-nous un arbre comme eux, ils en ont un sur lequel on va accrocher nos armes, à côté duquel on va rester, et ça va nous donner de la baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et a dit Allah Akbar. Il leur a répondu en disant Allah est plus grand, inna as-sunan. Voici les traditions. De qui à votre avis? As-sunan ici dans le sens des traditions et les erreurs des peuples auparavant, dans lesquels sont tombés les peuples auparavant. Après il leur a dit laqad qultum kama qalat banu israël li Moussa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun. Il leur a dit vous venez de me dire comme les juifs ont dit à Moussa quand ils lui ont dit donne-nous un dieu comme eux ont un dieu dans l'histoire du veau d'or. Donc regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le fait de chercher un objet pour y trouver la baraka et pour rester à côté de cet objet, il l'a comparé à quoi ? Au souhait de Banu Israël d'avoir un objet qu'ils adorent, devant lequel ils vont se prosterner, pour lequel ils vont sacrifier. Ce qui veut dire que prendre un tel objet, c'est lui vouer une adoration. et c'est prendre une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie du shirk. Et encore une fois, le tafsir, c'est-à-dire est-ce que c'est du shirk asghar ou akbar, il est le même que pour les talismans. C'est-à-dire, si la personne croit que cette chose sur laquelle elle cherche la baraka est une cause pour Allah azza wa jalla lui donne de la baraka, alors c'est du shirk mineur, asghar. Pourquoi ? Parce qu'elle a inventé une cause et elle s'est reposée sur un sabab qui n'en est pas un. Et elle a accroché un acte d'Allah à quelque chose qui n'a aucun rapport avec cet acte d'Allah. Par contre, si elle croit que cette chose elle-même va lui donner du bien, indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle l'a mis à la place d'Allah azza wa jalla et elle l'a mis avec Allah pour gérer et comme possesseur de cet univers. Et donc là, c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. La dernière pratique dont on va parler, après le cours il sera fini, c'est at-tatayyur. At-tatayyur, qu'on peut traduire par l'augure, ou qu'on peut traduire par la superstition. Quel est at-tatayyur, ou alors at-tiyara? C'est le fait d'agir, ou de ne pas agir, en se basant sur des signes. Par exemple, pour être concret, les Arabes à l'époque anti-islamique, ils se basaient sur le mouvement des oiseaux pour dire s'il allait arriver du bien ou du mal. Donc, quand par exemple ils devaient partir en voyage, ils prenaient des oiseaux et ils les lâchaient. Si les oiseaux partent d'une certaine façon, pour eux c'est un signe que le voyage sera bon. Par contre, si les oiseaux partent d'une autre façon, c'est un signe que le voyage sera mauvais et ils s'empêchent de partir à cause de ça et ils partent une autre fois. On appelle ça tout simplement l'augure ou la superstition. Et en arabe, on appelle ça tiyara, justement, qui vient du mot tayr, c'est-à-dire les oiseaux, parce que c'est en relation avec la pratique des oiseaux qui pratiquaient avant l'islam. Donc ça existe dans notre société, comme par exemple le fait que quand je vois un chat noir, je vais changer de chemin, parce qu'il va arriver un malheur, que quand j'ai croisé quelqu'un que j'aime pas le matin, ça veut dire que ma journée ne sera pas bonne, que quand j'ai fait tomber un couteau, ça veut dire que j'aurai de la visite, que quand j'ai cassé un miroir, ça veut dire que j'aurai 7 ans de malheur, que si j'ai posé le pied gauche en levant de mon lit ce matin, ça veut dire que la journée elle est fichue, etc., etc. Et peut-être qu'au bled ils ont d'autres pratiques, moi je connais celle qui est ici, et peut-être qu'au bled il y en a d'autres, et dans les pays arabes ou musulmans. Donc ça c'est ce qu'on appelle la superstition, ou alors la fameuse échelle, si je passe en dessous d'une échelle, il va m'arriver un malheur, etc., etc. Donc tout ça, ça rentre dans at-tiyara. Encore une fois, ce qui est cité dans les hadiths, c'est notamment avec les oiseaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la pratique avec les oiseaux qui est interdite. C'est le genre de pratique. Le fait de se baser sur des signes pour se retenir de faire quelque chose. Je ne le fais pas parce qu'il va arriver un malheur, parce que j'ai vu tel signe. Et pourquoi c'est du shirk? C'est parce que j'ai basé les événements futurs sur des causes qui concrètement n'ont aucun rapport avec les événements futurs. Le fait que l'oiseau il parte à droite, il n'y a aucun rapport avec le fait que mon voyage il sera bon ou mauvais. Le fait qu'il parte à gauche non plus n'a aucun rapport. Et pourtant, moi, j'ai mis un rapport entre ce mouvement et la réalité. Donc c'est pour ça que c'est du shirk. C'est de l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça rentre dans al-shirk al-asghar, le polythéisme mineur. Donc on va lire quelques textes à ce sujet. Dans le Coran, déjà, ça part de tayyara. Comme quand les gens disaient à leur prophète, tatayyarna bikum. Dans le surat Yassin, quand les prophètes venaient à leur peuple, qu'est-ce qu'ils disaient les mécréants? Tatayyarna bikum. C'est-à-dire, pour traduire dans notre vocabulaire à nous, vous portez la poisse. C'est-à-dire, on considère que le mal qui nous arrive, c'est à cause de vous et vous portez malheur. Vous êtes un mauvais signe. Donc ils disaient aux prophètes qui venaient les appeler à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils étaient un mauvais signe, un signe de malheur. Et Allah a appelé ça comment? Tatayyarna bikum. Qui vient de Tatayyur. Et qu'est-ce que les prophètes répondaient à leur peuple? Ta'irukum ma'akum. Votre sort est avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre sort dépend de vous. Et votre malheur vient de ce que vous faites. N'a aucun rapport avec nous ou avec notre présence. Ou alors dans l'histoire de Moussa, avec le peuple de Pharaon. Fa'ilaja'atum hasanatu, qalu lana hadi. Quand le bien leur vient, ils disent, Ça, c'est pour nous. وَإِنْ أَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. Et si un mal les touchait, يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى. C'est-à-dire, il l'assimilait à Moussa et ceux qui étaient avec lui. Quand un mal touchait le peuple de Pharaon, il disait, donc quand un bien les touchait, vous voyez que c'était le mérité et que c'était normal. Mais par contre, si une catastrophe les touche quelconque, ils disent ça, c'est à cause de Moussa et de son peuple. Ça ne veut pas dire qu'ils pensent que c'est Moussa qui leur a fait ce malheur, non. Mais que c'est arrivé à cause de la présence de Moussa et de son peuple qui appelle à adorer Allah exclusivement. Donc c'était une sorte de superstition. Et aussi dans les hadiths, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Vous pouvez les retrouver dans le kitab Tawhid. Donc le hadith d'Ibn Mas'ud dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, At-tayaratu shirk, At-tayaratu shirk. L'augure est du shirk. Et après, pour commenter, Abdullah ibn Mas'ud a dit, وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. C'est-à-dire, Abdullah ibn Mas'ud, après avoir cité le hadith qui dit l'augure et la superstition et du shirk, il a dit, il n'est pas un seul d'entre nous, si ce n'est, trois points de suspension, c'est-à-dire, si ce n'est qu'il est touché par ce genre de pensée. Surtout à leur époque, puisqu'ils étaient fraîchement convertis, et ils pouvaient encore avoir des pensées, les mauvais signes, etc. Au fond d'eux. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais Allah fait partir ça avec le tawakkul, avec le fait de s'en remettre à lui, subhanahu wa ta'ala. L'autre hadith, c'est celui de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, dans lequel le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. Celui que la superstition empêche de faire ce qu'il voulait faire, حاجته, c'est-à-dire son besoin ou son affaire, celui-là a associé à Allah. C'est-à-dire que la personne devait faire une affaire, devait faire quelque chose, et à cause de la triara, à cause d'un signe qu'elle a vu, elle s'empêche de faire son affaire. Vous avez compris? Par exemple, elle vend pour être concret, ici en France, elle va faire une affaire, elle voit un chat noir qui passe, elle dit, monsieur, c'est trop, je repars. Celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Faqad ashra. Il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils lui ont dit, wama kaffaratu dhalik. Comment on efface ou on expie cette mauvaise croyance? Et il a dit, un taqul, c'est de dire, Allahumma la khayra illa khayruk. Allahumma, il n'y a de bien que ton bien. Wa la tayra illa tayruk. Ne va pas traduire, il n'y a d'oiseau que tes oiseaux. Non. Il n'y a de sort que ton sort. Il n'arrive que ce que tu destines. Wa la ilaha khayruk. Et il n'y a de divinité que toi. Donc ça, c'est une parole à dire par celui qui peut être traversé, dont l'esprit peut être traversé par des restes de superstition et d'augure. Il y a encore d'autres hadiths qui parlent de ça, comme la parole d'Ibn Abbas, At-Triyara ma raddaka an hajatik, dans le sens de ce qu'il a dit, c'est-à-dire la triyara, l'augure, c'est ce qui t'empêche de faire ce que tu voulais faire, comme on a déjà expliqué. Et on a fini pour les différentes pratiques, donc j'ai fini le sujet de mon cours, qui consistait à montrer différentes pratiques qui sont répandues dans la communauté musulmane et qui sont en contradiction directe avec la base de l'islam qui est le monothéisme. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه